Camille Dauphiné-Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, merci toi.
Ça va bien aussi. Bienvenue à Entretien journalistique.
Ben merci beaucoup de m'avoir invité.
Ben écoute, on se parle évidemment, moi, à chaque fois, ce que je dis à mes invités. D'ailleurs, tu n'as pas fait partie de ce sous-groupe-là qui me demande, ben là, pourquoi tu m'invites? Moi, je ne suis pas intéressant ou intéressante. Moi, je réponds tout le temps parce que moi, je te trouve ou je vous trouve intéressant ou intéressante. Mais c'est ça, on se parle parce que, justement, ça fait un petit bout qu'on se connaît. Ça fait un petit bout que je vois ton travail aussi, surtout sur les réseaux sociaux. Et je me dis, c'est le temps idéal de se parler de ta job, de ce que tu fais. D'abord, ça dit, bon, selon ta page LinkedIn, j'espère qu'elle est à jour.
Très à jour, oui.
Tu es chef de contenu et journaliste au 24 heures. Chef de contenu, c'est un peu cette définition de poste, un peu fourre-tout. Qu'est-ce que ça fait de ton côté, une chef de contenu? Qu'est-ce que tu fais comme travail exactement?
Oui, ça s'additionne à mes tâches de journaliste de la façon qui est la suivante. C'est qu'en plus de réaliser mes reportages à moi, j'accompagne d'autres journalistes dans la production de leurs reportages. Donc, ça peut être, par exemple, de les aider à raffiner leur angle, de les aider à préparer des entrevues, à préparer des questions si jamais ils veulent un peu de feedback. Ben, puis, je relis les textes là, une fois qu'ils sont faits, évidemment. Puis, dans mon cas, c'est aussi que j'oriente le contenu éditorial de certaines sections du 24 heures. Comme là, en ce moment, je me concentre beaucoup sur la section porte-monnaie, là, qui est notre section finances personnelles. Donc, de donner une direction éditoriale à cette section-là de notre site, là, c'est ça qu'on veut dire un peu par chef de contenu.
Donc, finalement, un peu un travail de pupitre pour les gens qui sont un peu dans le domaine. Les gens du métier vont peut-être plus comprendre, là, effectivement.
Oui, bien, puis pour moi, qui vient à la base de la presse écrite, le pupitre, c'est la mise en page. Donc, je présume que dans d'autres domaines, notamment à radio, là, c'est peut-être plus ça. Là, ouais.
Ben, en fait, moi, évidemment, je parle par expérience personnelle du côté de Radio-Canada. Les pupitres au web, en tout cas, ce sont les gens qui vont justement relayer les textes, aider avec des angles pour les journalistes et tout ça. Donc, finalement, toutes sortes de mots pour dire, donner la même description de tâche.
Exact.
Le 24 heures, c'est intéressant comme média parce que ça a eu toute une histoire, beaucoup de transformations au fil des années. C'est apparu comme journal gratuit dans le métro à ses tout débuts. Ça s'est retransformé en une espèce de un peu plus format magazine. Et là, malheureusement, bon, déjà depuis un certain temps, malheureusement, la version papier disparue, victime de ces grandes transformations là qui est dans l'industrie en ce moment. Toi, d'ailleurs, tu as vécu la fin du papier au 24 heures. Ouais. Comment t'as pris ça, cette nouvelle-là? Comment est-ce que ça t'a affecté?
J'adore ta question parce que moi, j'ai vécu les trois époques du 24 heures que tu viens de décrire. Quand je suis rentrée dans ce qui était effectivement à l'époque un quotidien papier publié 5 jours/semaine dans le métro, vraiment axé sur l'actualité montréalaise, c'est sûr que c'était un beat auquel moi, j'étais habituée parce que c'est le beat d'où je venais. Là, j'ai commencé ma carrière comme journaliste à La Tribune, qui était aussi à l'époque un quotidien papier. Donc, bon, pour moi, c'était un monde que je reconnaissais, qui était très près de ce que j'avais fait avant. Et quand on a fait la transition à un produit comme, disons, 50% numérique puis 50% basé sur l'hebdo, moi, j'ai vécu ça, ben au départ, un peu comme... C'est sûr que moi, le deuil du papier, il était là parce que c'est ça, c'est un format que j'aime beaucoup, là. Tu sais, je suis encore abonnée à un journal quotidien papier aujourd'hui. Je compte le rester jusqu'à ce que ce soit plus possible, peut-être un jour. Fait qu'il y avait cette partie-là de deuil, sauf qu'en même temps, il y avait pour moi une partie qui était un peu motivante de s'en aller vers le numérique. Parce que je sais pas si tu prends le métro de temps en temps, mais les gens qui lisent le journal papier dans le métro sont très rares, là. Mm-hmm. C'était le cas aussi à la fin. Je veux dire, dès que Internet est arrivé, là, le réseau cellulaire s'est mis à rentrer dans le métro. Chaque fois que je voyais quelqu'un lire un journal 24 heures ou un journal métro, j'étais comme « wow », puis je prenais comme une petite note dans ma tête. Hey, je n'ai vu un. Ça veut quand même dire que c'était pas, disons, très représenté dans les habitudes de lecture de la clientèle. Fait qu'il y avait comme pour moi quelque chose d'un peu logique de passer à ça. L'hebdo, ça a été super le fun. On a fait ça pendant un petit peu plus qu'un an, il me semble. C'était des beaux défis. C'était vraiment une nouvelle façon de présenter de l'information parce qu'on allait plus en profondeur sur un sujet chaque semaine. Moi, j'ai appris énormément là-dedans. Quand on a coupé le papier définitivement, ben ça a été encore une fois là, le même mélange de deuil puis en même temps qui était accompagné d'une espèce de... C'est peut-être plus aligné avec ce que notre lectorat, qu'on vise les 18-35 ans, veut. Puis en plus de ça, c'est aussi beaucoup moins lourd hein, de cesser la production papier quand on est une petite équipe. Fait que, disons, moi, je suis assez comme optimiste là, dans la vie où je vois le verre à moitié plein. Là, fait que je me suis dit, ben au moins, on va avoir plus de temps pour bien le développer, notre produit numérique. Fait que c'est comme ça que je dirais que j'ai vécu ça un peu.
Justement, comme chef de contenu, comme journaliste, t'explorais déjà depuis un certain temps, on va appeler ça les univers numériques. On te voit beaucoup sur TikTok, on te voit beaucoup sur Instagram, en fait, où tu partages, entre autres, des vidéos de sur TikTok. Pour toi, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est un réflexe de dire « faut que je passe par là pour rejoindre les gens »
Oui. Moi, je fais partie des gens pour qui le réflexe aux réseaux sociaux est vraiment comme naturel et spontané. Là, j'avais un Skyblog, j'avais un MySpace, j'ai eu un Facebook tôt. Tu sais, j'ai toujours été très intéressée par les médias sociaux d'un point de vue personnel. Puis là, après ça, moi, disons, relayer du contenu médiatique ou de l'information sur les réseaux sociaux, c'est vraiment comme une seconde nature pour moi. Là, on n'a pas besoin de me tordre un bras pour que je le fasse. Fait que quand le 24 heures, c'est en aller plus vers ça, j'ai été vraiment contente de pouvoir développer ces réflexes-là, mais plus au niveau professionnel, là, parce qu'avant, c'est ça, j'avais beau aimer les réseaux sociaux, je travaillais dans des médias papier, là, principalement. Puis, tu sais, là, bon, c'est sûr qu'avec le blocage de Meta, Facebook puis Instagram, disons que là, on produit plus de contenu pour ces plateformes-là actuellement, parce qu'on peut pas le diffuser, je le rappelle. Mm-hmm. Mais TikTok, ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé quand même bien avant le blocage, là, puis c'est une plateforme, moi, que j'adore vraiment, là, pour diffuser de l'information. J'entrerai pas là, dans toutes les considérations, ce qu'on peut reprocher à TikTok, mais je veux dire, d'un point de vue de transmission d'informations, moi, je trouve ça très, très, très efficace pour les médias. Puis j'adore cette plateforme-là. Là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir lancer ce volet-là là, de notre info aux 24 heures. Puis j'aimerais même pouvoir y consacrer encore plus de temps en ce moment, mais bon, on a un nombre d'heures fini dans une journée.
C'est peut-être une bonne chose, finalement, moi, parce que... Généralement, on se dit on veut tellement faire que bon, on se rend compte que c'est peut-être bien de s'arrêter 8 heures ou 7-8 heures pour dormir.
Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. On peut pas tout faire tout le temps, là, surtout si on veut durer longtemps.
Voilà, que, exactement. Mais je trouve ça intéressant de la façon dont tu parles des plateformes, des réseaux sociaux, parce que souvent, puis c'est peut-être moi qui étais à l'ancienne école, mais on associe réseaux sociaux ou certainement TikTok, ce genre de choses-là, Instagram, les stories, tout ça, à quelque chose de très court. Très concis. Et quand, bon, toi, t'es quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement, t'es quelqu'un qui s'intéresse à la consommation, c'est des sujets qui sont pas toujours faciles à expliquer, à résumer. Mm-hmm. Comment est-ce que tu combines changement climatique et TikTok qui dure une minute?
Oui, bien, très bonne question. Je t'avoue que ça va être dans les défis que je vais avoir à relever prochainement parce que là, moi, à date, les TikTok que je faisais touchaient plus en général soit à des brèves d'informations rapides ou bien au domaine le plus financier. Puis pour l'environnement, effectivement, c'est le genre de questions qu'on se pose. Moi, je pense que c'est d'y aller en mode un peu, ça peut avoir l'air bizarre, là, mais comme quand tu manges un sac de chips, là. Tu sais, tu prends une chips, puis là, tu en manges une autre. Puis là, tu y vas très graduellement, mais tu finis par le manger tout le sac de chips. Mais je pense que des TikTok, c'est un petit peu ça. C'est comme, t'en écoutes un, oh, c'est le fun. Là, tu revois le créateur passer sur ta page, ah, je vais l'écouter un autre, il me semble le premier était bon. Puis là, au fil que tu écoutes les TikTok de la personne, t'en viens à avoir comme une vue d'ensemble du message que la personne essaie de passer. Puis, tu sais, ça, c'est pas toutes les informations non plus qui sont... C'est pas tous les reportages qui font des bons TikTok, mais je pense qu'il y a moyen de faire des bons TikTok sur à peu près tous les sujets. Faut juste faire le contenu de même. Fait que moi, je vois ça comme ça. Je vois pas apprendre à quelqu'un là, tu sais, une tonne d'informations dans un seul TikTok, mais je vais y en apprendre toujours un petit peu. Puis là, s'il aime ça, il va revenir. Puis au fil des TikTok, il va comme avoir une bonne compréhension d'un sujet, mettons. C'est de même que je le vois.
Et Est-ce que tu as de la rétroaction des gens? Parce que bon, on diffuse en ligne, mais on aime ça aussi avoir des commentaires ou en tout cas des pouces levés ou peu importe. Les gens font de la rétroaction, tu as des bons commentaires de ce genre de travail-là.
Ouais, ce TikTok-là, c'est une autre affaire qui me surprend. C'est la plateforme et de loin où on récolte le plus de commentaires de gens. On demande, tu sais, on fait souvent ça là, en réseaux sociaux à la fin du TikTok ou du Instagram, on demande qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous-le en commentaire ou en tout cas. La question peut être un peu meilleure que ça. Puis sur Instagram, tu sais, je veux dire, il y a personne qui commente. Sur Facebook, avant, là, ben, tu sais, il y en avait un peu quand même. Mais sur TikTok, là, toujours une déferlante de commentaires. Ce qui m'étonne beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on regarde sur nos cellulaires, pas sur nos ordi. Puis en plus, le module de commentaires est quand même mal fait. On peut pas taper plus que comme deux phrases. N'empêche, les gens commentent. Fait que moi, je trouve que c'est une des plateformes où on a le plus d'interactions. Puis ça, moi, j'adore ça personnellement parce que des fois, ça nous montre qu'est-ce que les gens veulent savoir en complément. Puis là, s'ils posent toutes la même question, bien, on fait un TikTok pour répondre à cette question-là. Puis souvent, ce TikTok-là fonctionne très bien parce que ça veut dire que les gens se posent la question. Puis vraiment, moi, l'interactivité de cette plateforme-là, je l'adore. Puis aussi, le fait que c'est vraiment pas long de produire pour TikTok parce que ce qui marche bien là-dessus, tu sais, c'est des vidéos super spontanées qui n'ont pas une grosse réalisation, qui se font tout seuls avec un téléphone. Quasiment le moins d'efforts tu mets dans la réalisation, le mieux ça va fonctionner. Après, faut de l'effort dans la rédaction, par exemple. Parce que si on dit les infos n'importe comment, ça marchera pas. Mais j'aime la légèreté de cette plateforme-là puis toute l'interaction qu'elle suscite. C'est pour ça que je l'aime principalement, là.
Et dans un monde où, traditionnellement, on se dit, bon, on publie quelque chose, on a une trace de ça, ouais. On diffuse un reportage, bon, on a gardé une copie quelque part sur un serveur, peu importe. Est-ce qu'il y a ça aussi de dire, bon, ben, les vidéos qu'on a sur TikTok, clairement, sont sauvegardées quelque part avant d'être mises en ligne, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe de dire, ça va disparaître au fil de la décision de l'algorithme, plutôt que de dire, mes vidéos sont là, je peux y retourner facilement, ou je peux... est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté éphémère du journalisme dans ce cas-là?
Peut-être plus pour les stories, parce que pour TikTok, on peut toujours retourner sur la page du compte puis aller consulter les TikTok. Puis même nous, en fait, on les classe en liste de lecture. Donc, quelqu'un qui aime, par exemple, notre série sur les salaires ou notre série sur les... on en a une sur l'environnement, une liste de lecture, entre autres, il peut retourner voir les vidéos sans problème. Pour les stories Instagram, c'est plus vrai, mais là, je t'avoue que ça fait longtemps que j'en ai pas fait dans un contexte journalistique. Moi, je suis un peu, tu sais, le papier, d'une certaine façon, c'est ça aussi, là. Un quotidien papier dans le métro, là, bonne chance, là, pour retourner voir un ancien article. Oui, tu peux aller à la bibliothèque et tout, mais peu de gens font ça, disons. Fait que c'est comme de vivre avec de la production d'infos éphémères, ça a comme un peu toujours fait partie de ma vie. Puis on dirait que je m'en fais pas trop avec ça. On publie tellement d'affaires que, comme, je vois ça comme des paroles dans le vent qui un jour vont se rendre. Mais je suis peut-être. Puis pourtant, tu sais, c'est drôle que je te dise ça parce que je suis quand même archiviste dans l'âme, là. Les journaux 24 heures papier, tu sais, toutes les hebdos, je les ai ici, là, dans une petite boîte derrière moi. Mm-hmm. J'ai aussi comme une collection de Journal de Montréal des années 70-80. J'aime regarder les affaires, les vieilles choses, mais on dirait que. Tu sais, je suis pas du genre à archiver toutes mes TikToks sur un disque dur externe, vraiment pas, là. Je me dis, ça vivra, puis. Comme le compte Instagram, on se l'est, tu sais, avec Meta, il n'est pas accessible en ce moment. Là, ça, c'est quand même, c'est des années de travail qu'on a un peu perdu, mais, mais je sais pas. On dirait que je me soucie plus de l'avenir que de ça, personnellement.
Écoute, c'est très bien dit. On va y revenir d'ailleurs dans quelques minutes à l'avenir. J'ai envie de t'entendre. On parlait très, très brièvement avant de débuter l'enregistrement. On dit, bon, tu parlais d'Alexandre Drolet qui était mon invité au podcast il y a quelques semaines, déjà peut-être plus que ça. Moi-même, tu vois, mon rythme de production pas toujours... bref.
C'est la beauté du numérique, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Absolument. Mais donc, c'est ça ce qu'Alexandre me disait. Bon, j'avais posé la question... Comme toi, très présente sur les plateformes, ouais. Très présente sur Instagram à titre personnel, mais tu diffuses aussi ton travail là-dessus, en tout cas, des extraits. Des fois, on te voit partir en expédition, en transport collectif. Des fois, on te voit parler de trucs, des prix à l'épicerie. Bon, comment est-ce que tu sépares ton personnel de ton professionnel dans ce cas-là?
Vraiment bonne question. Moi, l'entreprise pour laquelle je travaille, le 24 heures, ça appartient à Québécois. On n'a pas vraiment de directive, tu sais, claire. Ben, je veux dire, évidemment, il y a des directives de compagnie comme toutes les compagnies, là, mais tu sais, il y a rien de très, très restrictif. Fait que c'est vraiment, on y va un petit peu comme on le sent. Moi, la façon dont je le sens, c'est que, oui, sur mes réseaux personnels, je mets beaucoup la promotion de mon travail. Je m'empêche pas de mettre autre chose aussi parce que, ben, comme je t'ai dit, c'est ma nature là, de poster sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait ça puis j'aime ça. J'essaie de rester quand même le plus possible. Tu sais, je me dis toujours, ben, si mes boss regardaient ça, puis c'est le cas d'ailleurs, là, mes boss me suivent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils trouveraient que je suis en train de comme nuire à l'image du média ou quelque chose comme ça? Puis je pense que c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Puis moi, je trouve ça quand même bien. D'avoir, tu sais, oui, il y a plusieurs journalistes qui choisissent d'adopter une posture extrêmement retirée, neutre, puis presque comme évanescente, là, tu sais rien d'autre d'eux que les reportages qu'ils font. Pis c'est vraiment correct puis vraiment louable, surtout les gens qui travaillent plus, tu sais, dans le breaking news ou les nouvelles politiques. Tu sais, nous, on a quand même une ligne éditoriale qui, tu sais, qui a une direction assez claire, fait qu'on ait personnellement un peu plus de postures ou de commentaires qui vont dans le sens de cette ligne éditoriale-là, je pense que c'est le fun. Ça peut être rafraîchissant aussi. Puis on est quand même, c'est ça, un média plus alternatif avec vraiment c'est cette liberté-là. Après, évidemment que je fais quand même attention à ce que je dis, là, mais ouais, c'est ça, je dirais. J'en profite. Puis je me suis jamais fait dire par aucun de mes boss que ça allait trop loin ou que c'était pas assez professionnel. Fait que je continue comme ça. Puis je trouve tellement de sujets sur les réseaux sociaux aussi. Là, c'est pour ça que j'aime poster. Là. Plein de monde m'écrivent, me font remarquer des trucs. Mm-hmm. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde là, que je sois pas trop plate sur Instagram.
c'est une belle façon de te présenter. mais justement, c'est est-ce que tu sens que les gens... Bon, tu dis les gens t'écrivent. Donc, les gens aiment ce côté-là spontané, le côté authentique. Trouvent que finalement, je n'ai pas le terme en français, mais approachable, tu sais, qu'on peut justement te t'écrire puis te contacter sans avoir l'impression de franchir une limite qui est infranchissable. Là.
Oui, bien, puis aussi, quand on parle aux 18-35 ans, je pense que, tu sais, il y a quelque chose de bien d'être près là, du public. Là, puis, ben, c'est un public qui est énormément sur les réseaux sociaux. Puis, effectivement, moi, j'aime ça de retirer le plus de barrières possible entre moi et les gens. Je pense que c'est juste bénéfique en général. Puis, comme je dis, j'aurais probablement pas le même discours si je faisais si j'étais journaliste à Radio-Canada aux Nouvelles Générales. Là, tu sais, puis, c'est bien normal. Il y a plusieurs types de journalisme. Puis, moi, je trouve que ce que je fais généralement, c'est plus approprié avec le type de média pour lequel je travaille en général.
Tu as décrit il y a quelques instants 24 heures comme un média peu alternatif. Effectivement, bon, vous n'êtes pas nécessairement dans les mêmes angles que, bon, peut l'être le Journal de Montréal ou peut l'être, bon, d'autres publications de chez Québécois. Sans, évidemment, sans te placer dans une position où tu n'as pas envie de te trouver, mais bon, récemment, on a annoncé des grosses compressions chez Québécois. Au-delà de 30 % du personnel, malheureusement, va perdre sa job. Bon, ça va pas très bien. Est-ce que ça t'a soulagé de savoir que... Parce qu'on se disait, bon, on se dit peut-être, n'importe quelle compagnie qui fait des compressions va commencer par faire des compressions dans des domaines où c'est peut-être moins standard ou sûr ou bon, tu sais, c'est moins, un peu moins établi. Donc, est-ce que tu as eu peur de te faire dire, ben Camille, malheureusement, 24 heures?
Bonne question. Je vais faire attention un peu à ma réponse.
Je ne veux pas te mettre dans l'embarras ou quoi que ce soit.
Non, pas du tout. Puis, de toute façon, je pense que mon point de vue est tout à fait... Je peux dire ça sans problème. Là. Je pense que quand on travaille dans le domaine des médias, en général, il y a toujours cette peur-là un peu que tu décris. Il y a des vagues de coupures dans les médias depuis vraiment longtemps. Bon, quand va être la prochaine? Est-ce que je vais être touchée? Quand il y a eu celles qui ont été annoncées là, il y a quelques semaines, justement, ça ne touchait pas, en fait, notre secteur, puisque c'était vraiment là, que lié à de la production télé. Mm-hmm. Donc, mais tu sais, je ne peux pas dire « Ah, oh, c'était soulageant », parce que tu n'es jamais comme... soulagé de voir du monde perdre leur job. Là. Non, c'est ça exactement. Tu sais, puis c'est beaucoup, beaucoup de gens en plus. Là. Cela dit, moi, mettons, ce qui me permet de me rassurer, là, disons, dans ce contexte-là, c'est que je me dis que des besoins pour l'information, il va toujours en avoir. Puis moi, je suis très ouverte à informer de d'autres façons, là, que ce soit... vidéo, écrit, podcast. Genre, je veux dire, j'ai jamais fait de podcast, mais pourquoi pas un jour. Tu sais, je reste ouverte à toutes ces alternatives-là. Puis je me dis, je trouverai un endroit pour exercer ce métier-là si un jour j'en viens à perdre mon emploi. Puis comme c'est pas que je suis insensible à des coupes ou que ça me fait pas peur, là, c'est pas ça. Mais comme je suis pas vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans l'anticipation négative, là. Fait que je me dis, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Puis j'espère que je perdrai pas mon emploi, évidemment. J'espère que le 24 heures a encore une belle longue vie devant lui. Puis quand même, on voit des marques de confiance de la compagnie. On pourra peut-être en parler plus tard, mais on vient de publier un premier livre aux éditions 24 heures. Mmh. Fait que c'est quand même... Bon, il y a ça qui nous donne, moi, je trouve, t'sais, une bonne raison d'avoir espoir. Puis, ben, c'est ça un peu, t'sais. Après, évidemment, comme tu t'en doutes, je n'ai aucune influence sur les décisions de la haute direction comme la plupart du monde en journalisme. Ça
répond-tu
bien?
Oui, absolument. C'est très intéressant parce que, bon, on l'a mentionné, malheureusement, ça fait plusieurs années que ça va pas très bien. Moi, j'ai tendance à dire ce temps-ci que moi-même, quand je commençais comme journaliste il y a bientôt 20 ans, on me disait que c'était la crise. puis que ça n'a jamais fini d'être la crise finalement. C'est juste pire. Donc, voilà. Ben, c'est ça, il faut en parler, puis c'est ce genre de choses où tu te dis, OK, bon, évidemment, on ne veut pas que les gens perdent leur emploi, mais ça provoque à chaque fois une réflexion commune, et on espère qu'on se dit, bon, ben là, on réfléchit, on se questionne sur nos pratiques, on se questionne sur la façon justement d'informer, de rejoindre les gens. Il y a 20 ans, évidemment, Twitter commençait à peine, ben 20 ans. Bref, dans ce coin-là, Facebook aussi. Là, maintenant, ces deux plateformes-là sont pas mal sur le déclin. En tout cas, ils bloquent nos contenus, c'est un des deux. Donc, puis d'ailleurs, justement, est-ce que. Parce que toi, tu es au cœur de ça un peu, c'est-à-dire, bon, tu disais t'adapter des nouvelles plateformes, des nouvelles façons d'informer. Est-ce que tu trouves que des fois, ça va vite? Parce que là, c'est ça, il y a eu un peu de temps. Bon, TikTok, ça fait un certain temps que c'est là, mais là, en peu de temps, c'est ça, Twitter a été racheté avec Elon Musk, il y a eu toutes sortes de changements négatifs pour les médias. Facebook, bon, c'est C18, on ne rentrera pas dans le débat de C18, mais on a fait toutes sortes d'épisodes là-dessus, d'ailleurs, au podcast. Mais Facebook arrive puis dit, ben, on veut pas, nous, on veut pas payer selon ce que le gouvernement demande. On décide de bloquer les nouvelles, donc Instagram, Facebook, ça disparaît. Est-ce que toi, tu aimerais ça te lever le matin en disant, ça serait le fun d'avoir un peu de stabilité, une couple d'années où j'ai rien qui change là?
Ben, sais-tu, moi, le fait qu'il y ait des choses qui changent, c'est pas ça qui me dérange. De passer d'une plateforme à l'autre, de devoir inventer des nouveaux formats, en fait, moi, je trouve ça personnellement stimulant. Ce que j'aimerais qu'il reste stable ou qu'il se stabilise d'une certaine façon, c'est plus au niveau des revenus des médias. Comme chef de contenu, je suis aussi un petit peu impliquée dans l'aspect plus gestion là, du média, donc comme un peu au courant là, de certains flux financiers qui se passent derrière tout ça. Puis comme c'est quand même vraiment lourd de constamment remarquer que nos entrées d'argent sont coupées une après l'autre. Puis comme là, dans le cas de... Bon, on est un média numérique, fait qu'évidemment qu'une bonne partie de nos revenus, ça provient du trafic que sur notre site web, donc qui est lié au nombre de pages vues qu'on a. Là, je pense pas que c'est une grande surprise de dire ça. Et donc, quand on se fait bloquer complètement le trafic qui provient de Facebook, qui était une part assez élevée quand même de notre trafic, ben ça a un impact immédiat là, tu sais, sur les revenus. Puis je parle à d'autres collègues dans d'autres médias à travers le Québec et c'est la même chose. C'est comme, bon, hey, un nouveau bâton dans les roues, tu sais, on fait déjà... C'est pour ça que quand le monde me dit, ah, mais il faut être créatif pour trouver des nouvelles façons d'avoir des revenus, je suis d'accord, vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un contre l'innovation puis les changements de modèle, là, ça me fait pas peur. Mais quand tu regardes ça, on est une industrie pour laquelle les gens, un, veulent pas payer pour le produit. Deux, pour les annonceurs, on est parfois un terrain un petit peu compliqué parce que de l'actualité, c'est pas brand safe, comme on dit en marketing. T'sais, on peut parler de bien des affaires. Puis, troisièmement, on n'a pas le droit d'avoir accès aux réseaux sociaux pour avoir du trafic sur nos sites. Fait que là, c'est comme, on joue pas, là, non, dans un marché où on est égal avec une compagnie ordinaire. Le vendre des nouvelles, ben, monétiser plutôt des nouvelles, c'est super compliqué à la base. Puis là, on se fait enlever comme le pilier naturel des abonnements, le pilier des annonceurs, ça a toujours été un peu dur. Puis là, en plus, t'as plus le droit d'avoir les réseaux sociaux. C'est comme, c'est une joke, là. Moi, c'est plus cet aspect-là qui me fâche. Puis, tu sais, évidemment que je comprends tout l'aspect politique et compagnie derrière ça, là. Je dis pas que j'ai de solution. C'est juste, moi, c'est à cette stabilité-là que j'aspirais, là, de pas toujours être en train de se demander comment on va faire pour trouver de l'argent. C'est plus ça. Changement de plateforme, non, ça, je trouve ça le fun, en fait. C'est
Ben, ça peut
agréable.
être intéressant, effectivement, d'essayer des nouvelles plateformes. Comme tu vois maintenant, la nouvelle plateforme qui est en vogue, c'est ce qui marchait bien en 1995, c'est-à-dire l'infolettre.
Oui.
Tout est cyclique, finalement. Ça revient. Voilà. Tu parlais de Skyblog
Oui.
tantôt, peut-être que ça va revenir, on ne sait pas.
Eh bien, mais peut-être, moi, les blogs, je trouvais que c'était vraiment super comme méthode d'information. Puis Infolette, comme tu dis, le grand revival avec Substack et compagnie.
Voilà.
Ouais, on en a lancé une d'ailleurs. Là, tu sais, c'est ça, je veux dire, on n'a pas peur pantoute de s'adapter. Il y a juste quelque chose d'un petit peu choquant d'avoir autant de bâtons dans les roues pour produire ce qui, au fond, est un service public, là, à mon avis. Fait que bon.
Ben, parlant de plateforme, on peut peut-être appeler ça une plateforme. Tu as écrit un livre
Oui.
qui s'appelle, attends un peu, j'ai le titre ici, voilà, Vivre avec une seule planète, guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien. Moi, je dois dire que j'étais scandalisé qu'on utilise des arbres pour imprimer. Non, c'est pas vrai.
Sais-tu, j'ai déjà ma réponse pour ça, hein, si tu veux.
Ben
On
non,
peut
mais c'était
l'acheter
pas dans
en...
la question, là, clair. C'était clair que je voulais faire un gag avec ça.
Mais t'es le premier. J'ai préparé ma réponse à ça, mais t'es la première personne
Ben
qui me
écoute,
le fait, ouais.
si tu as ta réponse, on peut quand même l'entendre. Mais
Oui. Ma réponse, là, c'est que si jamais ça te préoccupe d'avoir contribué à la consommation d'un peu de bois là, avec ce livre-là, tu peux l'acheter en version électronique
Ah,
ou,
voilà.
encore mieux, demander à ta bibliothèque de l'acheter et pouvoir le partager avec tous tes voisins.
C'est une
Tu vois comme
excellente
je suis
réponse, voilà.
prête.
Non, mais on fait des blagues. Mais non, effectivement, t'as lancé un livre. Parce que, bon, on disait tantôt, tu t'intéresses beaucoup aux questions environnementales, questions climatiques. C'est un peu ce débat éternel de est-ce que c'est la faute aux entreprises? Est-ce que c'est moi qui dois arrêter de prendre des pailles en plastique? Est-ce que je dois arrêter de conduire mon Hummer? Bon, tout ce débat-là, évidemment, bon, j'ai pas eu l'occasion de le lire, malheureusement, mais toi, tu as décidé, bon, tu disais que, j'imagine, une série d'articles, par exemple, c'était pas assez complet, tu as voulu aller plus loin, donc tu as écrit un livre.
Oui, ben c'est effectivement, tu touches à plein de choses intéressantes dans ton commentaire. Le choix du format livre pour ça, c'est que ben souvent les gens se demandent qu'est-ce que je peux faire moi pour l'environnement. Puis là, il y a comme mille et une ressources qui existent, mille et un trucs qui existent, mais on trouvait qu'il n'y avait pas un seul guide là qui permettait de prendre, tu sais, d'avoir réponse à la plupart de ces questions-là et aussi qui était faite avec des chiffres qui concernent spécifiquement le Québec. Parce que bon, les gestes qu'on peut poser puis surtout leur impact n'est pas le même, mettons, en France qu'ici là pour plein de raisons. L'hydroélectricité puis la façon dont le territoire est fait le principalement. Et puis aussi, on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment de guide qui quantifiait, mais lesquels de ces gestes-là sont importants. Parce que tu as mentionné comme ça, arrêter d'utiliser des pailles en plastique puis un hypothétique Hummer, mais évidemment, ce n'est pas le même impact. Puis on trouvait qu'il manquait un petit peu de OK, mais là, si je fais mon épicerie en vrac, là, ça a-tu plus d'impact que si je deviens végétarien, là? Lequel est le plus gros? Bon, c'est vraiment tout ça qu'on est allé décortiquer là, pour trouver une hiérarchisation un petit peu des gestes là-dedans. Puis, ben c'est ça. Juste, je réponds rapidement aussi là à ce que tu dis sur les gestes individuels. On a vraiment fait attention que ce livre-là, oui, aborde les gestes individuels parce que c'est la meilleure perche d'accès pour le grand public, mais qui amène aussi là à une réflexion plus au niveau collectif parce qu'on sait qu'il y a plein de gestes individuels qui se font pas si le collectif suit pas, là. Par exemple, prendre le transport en commun, ben s'il n'y en a pas, tu peux pas le prendre. Puis aussi, ben tout l'aspect, on demande souvent des changements au niveau politique, institutionnel, mais il faut absolument que des citoyens aient l'air d'incarner ces changements-là pour qu'un politicien ait la légitimité de faire passer des projets de loi, par exemple. Fait que c'est un petit peu, tu sais, on aborde vraiment cet aspect-là plus collectif là, dans le livre, même s'il est centré autour des gestes individuels.
Et justement, est-ce que tu as déjà des réactions? Je sais que le lancement, c'était tout récent, là. Est-ce que tu as déjà des rétroactions par rapport à ton livre?
Oui, cela dit, je dois dire que les gens qui m'écrivent pour me dire, tu sais, qu'ils l'ont aimé, ben c'est beaucoup. Je veux dire peut-être que les gens qui l'aiment pas ne m'écrivent pas pour me le dire là. Fait que là, je te donne donc un portrait qui est pas peut-être représentatif de 100% de la réalité. Mais on a eu vraiment des bons échos là, effectivement, jusqu'à maintenant, comme quoi c'était pas moralisateur, ce qui était vraiment un de nos objectifs, puis que les gens apprenaient des choses, étaient inspirés à mettre en place des changements dans leur vie. Ça, c'est tout à fait notre objectif. Puis on a eu quelques bons commentaires de personnes, tu sais, dont j'aurais pu craindre des critiques là. Par exemple, Luc Ferrandez puis Mathieu Dugal, les deux à la radio, deux personnes très renseignées en termes d'environnement là. Fait qu'on avait une petite crainte là, de recevoir des commentaires du genre ah mais les gestes individuels ça change rien, on n'a pas à mettre ça sur les épaules des citoyens. Mais je pense que la façon dont on a écrit le livre montrait notre souci là de cette question-là. Puis moi j'étais bien soulagée quand j'ai reçu ces deux commentaires-là. Je me suis dit comme OK. On a réussi quelque chose, là. Fait qu'à date, il y a des bons retours. Mais comme je te dis, Allemande qui n'aime pas ça, peut-être pas m'écrire pour me le dire.
Ben écoute, peut-être qu'il réagirait sur Facebook, mais tu peux plus partager. Voilà. Bref. J'ai envie d'entendre peut-être une dernière question. Tu l'as dit toi-même, tu as vécu beaucoup de transformations. On est en train collectivement d'en vivre plusieurs autres, là, dans le domaine médiatique. Tu as écrit un livre, bon, on vient de le mentionner. C'est quoi l'objectif que tu te donnes pour la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, moi, je veux absolument faire ça dans ma carrière? Ça serait quoi, par exemple?
Et ça, j'ai toujours été un petit peu plate là, dans ces questions-là parce que moi, j'ai comme jamais eu un objectif précis dans ma carrière, là, mis à part de toujours aimer ma job puis t'sais, faire du travail qui, je pense, amène plus de bien que de mal à la société, là. Fait qu'en journalisme, ça, je trouve que ça, c'est pas mal toujours le cas. Puis en ce moment, ce que je fais, j'adore ça. J'aime beaucoup notre ligne éditoriale. J'espère pouvoir rester dans un média, tu sais, qui a des positions plutôt progressistes, puis qui défend les droits des locataires, l'importance de l'accès au transport en commun. Moi, c'est beaucoup des questions qui me parlent, l'environnement aussi. Fait que tant que je peux rester dans ce domaine-là puis continuer à faire l'information, je vais être très heureuse. Mettons si je veux aller un petit peu plus concret, il y a quand même le format du podcast que j'aimerais, que j'aillerais pas explorer un jour dans ma vie, peut-être pas maintenant, mais éventuellement. J'ai adoré faire le livre. Si on me propose d'autres projets à long format, je vais dire oui. Mais en général, c'est ça. Moi, le médium, pour moi, est peu important. Là, c'est plus le message qu'on passe qui m'intéresse.
Ben voilà. Écoute, je te dirais, pour le podcast, c'est simple. Ça prend un micro et, dans mon cas, deux couvertures de déménagement pour ne pas sonner comme si j'étais dans une,
mais c'est ça.
Dans une caverne. C'est toujours très simple.
Je vois ton petit studio, là. Puis, comme je trouve ça inspirant parce que ça a l'air quand même plutôt low-tech, là. C'est pas.
Ah, c'est très low-tech. Mais bon, c'est sûr que ça prend.
Moi, le low-tech, j'aime ça. Là.
Je pense que tu dois t'en douter aussi. Ça prend un concept, ça prend bon, oui. La capacité de réagir, tout ça, c'est un peu. Ben, c'est comme la radio, finalement, mais un peu à la maison. Bref, voilà. Mais oui, c'est tout à fait une avenue, là. Ça aussi, c'est de retour. La radio n'est jamais disparue. Donc, là, on a réinventé la radio avec le
tout
podcast.
Tout à fait. Puis je trouve que il y a de la place là pour plus de podcasts d'actualité au Québec, je pense là, donc ça me j'irais pas ça.
Ben je veux dire tant que tu lances pas un podcast d'humoriste, tu penses qu'il y a encore de la place au Québec sur le marché.
Non, ça avec un invité qui parle de questions random, genre le marché me semble bien desservi là, c'est voilà.
Mais bon, on va cesser ça, c'est le commentaire éditorial sur les balados d'humoristes. Camille Dauphinet-Pelletier, chef de contenu et journaliste au 24 heures, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Ben merci de l'invitation encore une fois, c'était vraiment le fun.
Et merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Si vous voulez écouter les autres épisodes d'Entretien journalistique, il y en a maintenant 89 autres, c'est quand même pas rien. Vous pouvez trouver tout ça sur pieuvre.ca, bien sûr. On était aussi sur Spotify et sur Apple Podcast. En terminant, je vous invite à vous abonner justement à notre infolette, donc l'infolette de pieuvre.ca. Ça vous donne accès à tous nos articles, toutes nos critiques, tous nos épisodes de balado. C'est entièrement gratuit, c'est livré chez vous le samedi matin. Et ben pour vous abonner, justement, pour vous inscrire, c'est sur le site. Il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes. Donc ça, je vous dis merci et à bientôt.